Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda.
Bonjour, Eugène Pewa Pelema depuis le studio de la Voix de l'Amérique à Washington DC. Au studio, je serai rejoint par mon petit frère Cheikh Tchero. Et depuis Dakar, nous avons Sedina Abangay. Bonjour Sedina, comment vas-tu?
Bonjour Eugène, bonjour Cheikh. J'espère que vous allez bien.
Nous nous portons très bien. Nous saluons tous nos auditeurs de la Voix de l'Amérique dans tous les pays d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, les quarts de finale de cette Ligue africaine de basketball, en anglais BAL, Basketball African League, va démarrer avec un match très important, le Zamalek d'Égypte contre les forces armées police du Cameroun. Donc, avant que je parle à Cheikh, Sedina, comment tu vois, du moins se présente pour toi, ce match d'une importance capitale, puisque maintenant c'est win or die, vous gagnez, vous continuez, vous perdez, vous rentrez à la maison?
Oui, je trouve que pour ce match-là, c'est l'un des deux les plus équilibrés sur le terrain, contrairement à ce qu'affichent les bilans des deux équipes, parce que les forces armées et police du Cameroun ont montré de bonnes choses et ils ont perdu tous leurs matchs pratiquement sur le fil. Les Zamalek, au contraire, montent en régime et ils l'ont prouvé contre la Gabon. Maintenant, je pense que ce sera un match beaucoup plus équilibré sur le terrain que sur la papier.
Tout à fait, Cheikh, ton avis, comment tu vois ce match de ton côté?
Ah bon, je vois ce match-là vraiment à reconnaître que l'équipe camerounaise s'est très bien battue pour être là où ils sont actuellement. Et ils ont perdu deux matchs, ils ont gagné le troisième. C'est le match de délivrage qui les a fait passer. Et je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et l'équipe des Zamalek, comme on les a tous vus, et c'est une très bonne équipe qui est prête à jouer aussi. Il veut aussi avancer dans les prochaines étapes. Ça va être un match très intéressant dans ce point du tournoi quand même comme quart de finale.
Tout à fait. En tout cas, d'abord, il faudrait le rappeler, cette équipe camerounaise était un peu dans, on peut appeler ça la poule de la mort, parce que c'était une poule qui était très 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 disputée. Par contre, l'équipe de Zamalek était dans une poule qui était un peu plus faible. Ils ont dominé les débats pendant tout ce premier tour. Est-ce qu'ils ont été bien testés par ces équipes? Parce que cette équipe camerounaise, de son côté, elle a été vraiment testée. C'est vrai, elle a fait des erreurs dans les fins de match, que ça soit contre
l'Angola,
Petro de Luanda ou l'AS Salé du Maroc. Mais là, elle, au dernier match, on sent qu'il y a eu les ajustements nécessaires et d'une certaine manière, Cheikh, ce sera un match des coachs, je peux appeler ça. Ce sera un match des coachs parce que aussi bons les joueurs peuvent être, ils vont faire des erreurs. Mais c'est comment les coachs vont réagir qui va faire la différence.
Ouais.
Et donc, c'est de cette manière que je vois ce match-là aujourd'hui.
Yeah, tout à fait, tu as tout à fait raison, Eugène. Et quand on voit les équipes, d'ailleurs, même on les voit en train de se préparer, faire les réchauffements, dans 30 minutes, moins de 30 minutes, ils vont commencer les matchs ici. Et quand on regarde vraiment, les joueurs ont beaucoup de talent. Les joueurs peuvent avoir leur jeu A, B, C et dans les matchs, mais c'est le coach qui doit déterminer quand est-ce que ton joueur est en catégorie A, catégorie B ou B, C. Si ton joueur est en catégorie A, tu n'as pas besoin de beaucoup les coacher parce qu'ils sont dans leur norme normale pour compétir dans les compétitions. Mais s'ils sont dans leur normale C, ça veut dire que c'est le coach qui doit vraiment beaucoup faire d'efforts pour les faire ramener dans les jeux. Et je vois que ça va être vraiment un match pour les coachs aussi de montrer vraiment que leurs équipes peuvent mieux faire, c'est de faire sortir le meilleur de tous tes joueurs à ce niveau-là, parce que c'est les quarts de finale, comme on voit. C'est pas tout le monde qui sont sont arrivés à, dans ce stage-là. Mais il y a des questions aussi qui disent qu'il y a des équipes qui vont se rencontrer encore une deuxième fois. Et il y a des fans qui demandent pourquoi c'est ça, c'est ici.
Je vais expliquer ça. Voilà. En fait, voici comment cette tournoi-là s'est joué. On n'avait que 3 poules, pas 4 poules. Si on avait eu 4 poules, c'était très simple. On prenait les 2 premiers de chaque poule et les gens jouaient les quarts de finale. Mais dans cette compétition, on n'avait que 12 équipes, 3 poules de 4. Les gens ont joué, les gens étaient classés de 1 jusqu'à 4. Les premiers de chaque poule et les deuxièmes de chaque poule étaient qualifiés d'office. Ensuite, ça fait 6 équipes, 3 poules. On devait repêcher 2 autres équipes, et ces 2 autres équipes, c'est ce qu'on appelle les 2 meilleurs 3e du tournoi. Et c'est ce qui s'est passé. À la suite de ça, quand ils ont fait le partage qui joue contre qui, on a classé les premières équipes par goal average, par nombre de points marqués, ainsi de suite. Donc, la meilleure équipe, obligatoirement, la première équipe qui était la meilleure équipe du tournoi, c'était le Monastir. Elle allait jouer le plus mauvais des 3e qui a été repêché. Dans ce cas particulier, c'était l'AS Police qui a été repêché dans ce cas particulier. Mm-hmm. Ensuite, l'équipe qui était première, mais qui était en 2e position, devait jouer, et c'est le cas d'Izamalek, le meilleur 3e. Et le meilleur 3e ici, ce sont les forces armées et police. Et donc, ils sont tombés sur les forces armées et police.
Ouais.
Ensuite, le 3e premier, et je crois que c'est le Petro de Luanda, devait jouer le plus mauvais des 2e. Il s'avère que, pour une raison ou une autre, ça s'est trouvé que c'est l'AS Salé qui était dans ce classement. C'est pour cela que, ayant été dans la même poule, ils se retrouvent ensemble. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Là, on ne peut pas changer ça. Ensuite, après, bon, il y a les 2e et 2e, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait le classement. Et c'est vrai que pour la suite, Sedina, ce serait fantastique que la Ligue africaine de basketball pense avoir toujours des nombres où ça peut correspondre au quart de finale. Donc, au lieu d'avoir 12 équipes dans cette ligue, il serait vraiment préférable d'en avoir 16. À mon avis, c'est le format qui est utilisé pour l'afro-basket, c'est le format qui est utilisé dans d'autres compétitions, et c'est comme ça que ça se passe, Sedina.
Oui, moi-même, c'est la même interrogation, en fait, qui a été mienne quand j'ai vu les affiches des quarts de finale, mais après, on peut dire que la NBA a utilisé son propre système, c'est-à-dire un système qui fait fi du nombre de confrontations directes entre les équipes. Ils ont utilisé le système de saison régulière play-off pour ce tournoi, mais comme tu viens de le dire, peut-être qu'on n'en a pas l'habitude ici en Afrique de voir des équipes qui sont affrontées en poule, s'affronter les retours suivants à nouveau. Donc, ça fait un peu bizarre, mais bon, si la NBA était basée sur son système, c'est tout à fait normal. Mais je pense que ce serait plus judicieux pour les tournois à venir d'avoir des phases qui permettent de sortir directement en quart avec le nombre d'équipes. Parce que le système des meilleurs troisièmes, s'il n'y a pas de croisement, pour effectivement amener ce genre de situation qui est assez inhabituelle ici en Afrique, parce que comme tu l'as rappelé, on a l'habitude de jouer avec le système de la FIBA. Et donc, c'est un système où il y a des croisements entre les premiers et les deuxièmes de chaque poule. Et les adversaires potentiels se connaissent dès le départ du tournoi. Contrairement à ici, il fallait attendre que le classement final, c'est-à-dire de la première à la 8e place, soit établi pour savoir qui va croiser qui. Mais comme c'est une première fois, je pense que c'est normal que la NBA utilise son système. Mais au fur et à mesure que ce tournoi-là va évoluer, certainement, beaucoup de choses vont changer de manière positive et beaucoup de choses seront améliorées pour que la compétition puisse de plus en plus ressembler à ce qui se fait en Afrique, tout en restant sur des bases qui permettent de développer cette ligue-là en s'appuyant sur l'exemple de la NBA.
Tout à fait, Sedina. Cheikh, on a actuellement 2 équipes de basketball qui vont se rencontrer. Ils ont des atouts totalement différents. Il y a cette équipe de Zamalek qui a un certain nombre de joueurs, dont Walter, qui est le meilleur marqueur d'ailleurs de leur équipe. Il y a un ancien qui est son suppléant, Solo. C'est un joueur super expérimenté qui est ivoirien. et qui joue dans cette compétition et qui a pu nous montrer sa qualité de jeu les deux derniers matchs, parce que je crois que le premier match il y a eu des problèmes pour entrer dans le match, mais on a vu les deux derniers matchs que c'est un joueur qui est très important, qui a causé énormément de problèmes aux arrières de l'AS Police.
C'est AS Douane,
qui a, leur a fait perdre énormément de balles et ne leur laissait pas développer leur jeu pendant le match. Et il y a ce fameux power forward Anas, qui est un gars de 2m14, mais qui a une vivacité, une rapidité, il sait bien dribbler. Et ça sont les joueurs qui jouent un grand rôle. Et d'ailleurs, ils protègent le panier. Pour ceux qui veulent s'hasarder, aller au panier, on en a vu plusieurs aller, oh non, il est là, et ils sont partis. Yeah. De l'autre côté, on a du Cameroun, on a Haruna qui est le meilleur marqueur, 56 points, qui a fait un très très grand match, qui a joué des bons matchs dans l'ensemble sur les trois matchs, qui a été peut-être, à mon avis, des fois porté trop le ballon, il ne le partageait pas avec ses coéquipiers, mais j'ai l'impression que le coach a donné des consignes, et ces consignes-là ont quand même été bien utilisées. On a vu Marcus Wallé qui a été sensationnel au dernier match, qui n'avait peut-être pas assez bien joué les deux premiers matchs, mais qui est un joueur très important. Et on avait ce joueur intérieur, Nkene, qui était là pour prendre tous les rebonds, que ce soit offensif et défensif, et qui ont joué un rôle, Cheikh.
Le pivot nigérien que tu viens juste de mentionner son nom, il est numéro 42 de l'équipe Chinemelu Elonu. C'est un pivot qui est très athlétique aussi. On a vu les prestations de Aliouk Dan qu'il a fait la fois de rien. Il a sauté des défenseurs comme ça. Donc cette équipe, ils ont beaucoup de talent. Ils ont d'ailleurs aussi un petit joueur qui est le seul joueur qui vient de NBA Academy. Je me rappelle pas bien son nom. C'est un petit de 18 ans ou 19 ans comme ça qui joue avec eux.
L'équipe de Zamalek.
Des Zamalek,
effectivement.
Et puis ils ont aussi Walter Hodge, et vous savez le numéro 12 Wallace qui est très bien aussi.
Tout à fait.
Ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent vraiment faire beaucoup de mal dans ce pays et dans ce match. Et puis ils ont aussi le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, comme tu l'as bien dit, Moulouko Souleymane Diabaté.
Aka Solo.
Aka Solo. Donc quand on regarde le rythme de ce match, on va voir entrer une compétition de haut niveau, parce que l'équipe camerounaise, vraiment, ils ont mis le paquet dans les derniers matchs. Quand vous avez vu lors de leur prestation contre l'équipe angolaise qui a battu l'équipe marocaine, je pense que l'équipe marocaine l'autre jour, c'était un match très serré. Et bon, tout le monde pensait que l'équipe va perdre, mais ils ont fait une prestation contre cette équipe. Là, ils ont limité l'équipe angolaise à moins de 70 points par match.
Donc, si
tu arrives à mettre une équipe qui est très bonne avec les 3 points, tu les limites à 70 points, c'est très bien.
66 points, exactement. Le score était 66-67.
Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment mouillé le maillot avec ce match-là, et ils ont d'ailleurs perdu ce match avec 2 points.
Ouais.
Donc, ça veut dire que cette équipe camerounaise peut faire des surprises durant les matchs à venir, précisément avec Zamalek. Moi, je voulais aussi ajouter ça. Il y a beaucoup de surprises qui vont venir dans les jours à venir, comme j'ai vu que Céline en parlait tout de suite de ce qui se passe. Et on va avoir beaucoup de changements dans le futur, parce que c'est un derby, comme on le sait tous. Il y a beaucoup de règles. Il devait faire 36 matchs. 36 matchs, ils ont réduit ça à 26 matchs. Donc, ils ont laissé tomber 10 matchs. Et c'est ce qui fait que c'est 3 semaines. Donc, c'est très rapide. On va voir maintenant s'il va y avoir beaucoup de changements dans le futur, dans les plans. Comme Sedna a dit, la NBA aussi envisage d'implémenter beaucoup de leur manière américaine ici pour faire de cette ligue une ligue meilleure dans toutes les ligues de basket, parmi les ligues de basket dans le monde. Et puis, nous avons aussi vu que il y a beaucoup de joueurs qui ont pris l'initiative, comme tu le sais bien, de vraiment s'ajouter pour faire un tournant de haut niveau comme la NBA dans les jours à venir. On a vu Joakim Noah, Dikembe Mutombo. Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'autres
Grant
joueurs.
Grant Hill.
Je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'autres joueurs qui vont vouloir jouer. Et puis il y a aussi Lou Holding. Moi, je ne veux pas être surpris si on trouve Hakeem Olajuwon, parce que c'est eux qui sont vraiment les grands, grands, de l'Afrique du basket dans la NBA ici. Donc juste, on va pas être surpris s'il y a beaucoup de anciens stars NBA vont joindre sur ce truc. Ils ont dit que la valeur est limitée, et la valeur est estimée de 1 billion et 1 milliard de dollars actuellement. Et ça, c'est une grande chose. Ça veut dire que la NBA va mettre beaucoup d'argent.
On va tous repartir au pays, là.
Donc, il essaie de faire vraiment une ligue de basket explendide, vraiment comparément au NBA, les règles, les modalités, les contrats. Il essaie de faire tout de leur mieux, et puis l'égalité entre les joueurs de NBA et cette tournoi NBA. C'est ça même le but de Amadou Gallo Fall, parce que lui, il n'est pas focalisé d'envoyer les joueurs NBA. Il est focalisé de maintenir une ligue en Afrique qui va être comme la NBA, que les gens vont vouloir venir, même les joueurs de NBA venir, pourquoi pas, les joueurs de NBA vont vouloir venir jouer ici, parce que toi-même, tu sais, les contrats de NBA, ça change du jour au lendemain, les joueurs peuvent se trouver dans les conditions. Ce sera une ligue pour eux d'aller venir jouer, et puis ça va être une ligue qui est vraiment de haut niveau compétitivement comparable au NBA. Comme tu l'avais si bien vu, que toutes les joueurs que moi je parle, les 7 Basketball Africa Ligue en hygiène, ces gens-là, les joueurs d'ici me disent que mais le basket africain de ce tournoi-là, c'est trop rapide.
Et oui, hein.
Ils voient que la vivacité, quoi, les gens ne s'arrêtent pas, c'est comme au collège, quoi. Mais en NBA, c'est pas comme ça. En NBA, les gens jouent très dur seulement quand c'est le play-off. C'est pour ça qu'on voit que le play-off, c'est pas un moment de jouer et c'est pas un moment de s'amuser. C'est le moment de vraiment mettre le paquet pour vraiment.
Pour maximiser. En tout cas, Sedina, on aura ici un match, à mon avis, très, très, très disputé. Il faut se rappeler que le coach de FAP, c'est quand même Lazare Adingono. Lazare Adingono qui fut le coach de Petro Luanda, qui, lorsqu'ils ont gagné leur premier titre de l'Afro-Basket des champions, des clubs champions. Mmh. Et là, je suis convaincu qu'il a dû regarder ces matchs qu'il avait joués, les deux matchs qu'il a perdus, que ce soit contre le Petro de Luanda et l'AS Salé. Et il a dû, parce qu'on a déjà vu les premiers ajustements qu'il avait fait pour leur dernier match qu'ils ont gagné contre cette équipe de AS Police. Je suis convaincu qu'il va réétudier ça. Il va voir cette équipe de Zamalek, leurs forces et leurs faiblesses, et il va essayer de s'adapter. Et bon, bien sûr, l'équipe de Zamalek qui part avec un esprit beaucoup plus, on peut dire, supérieur, parce que bon, ils ont gagné 3 matchs. Ils se disent que non, cette équipe-là en face, peut-être, bon, mais peut-être c'est pas aussi leur façon d'aborder le match. Donc, ça va être un match très disputé, Sedina.
Oui, ça va être un match très disputé, mais pour moi, le Zamalek est un deuxième assez malheureux. Je le dis comme ça parce que ils ont pratiquement l'une des meilleures équipes. Peut-être que si les FAP étaient dans une autre coupe, ils auraient pu se qualifier à la première ou à la deuxième place. Parce qu'on voit que contre la FSL, ils ont perdu de justesse, avec juste 3 points de déficit. Contre les Petro de Luanda, ils ont perdu de 2 points en ayant une faute non sifflée à la fin. Et contre l'AS Police, ils ont montré un visage très reluisant avec des ajustements tactiques, nécessaires au bon déroulement de leur basketball. Donc moi, je pense que le Zamalek, même avec 3 victoires, ne peut pas, pour le moment en tout cas, au vu de ce que les FAP ont montré lors de leurs 2 premiers matchs, même si ils ont été défaits, et lors du 3e, où, comme je viens de l'indiquer, leur coach est parvenu à créer une réelle alchimie entre le potentiel des joueurs et la mise en place tactique, ce qui leur a permis de survoler ce match contre la Police. Je pense que les Zamalek doivent faire très attention à cette équipe, d'autant plus qu'ils ont, lors du dernier match, Amadou Abdoulaye Haruna a plus libéré la balle, a fait plus jouer ses coéquipiers, et ça a montré que cette équipe avait beaucoup plus de potentiel qu'on avait pu le voir sur les 2 premiers matchs, où Amadou Abdoulaye avait, à plusieurs moments clés du match, n'avait pas libéré la balle et n'avait pas permis son équipe de revenir sur le Petro de Luanda notamment. Donc moi, je pense que les Zamalek est très fort. Ils ont Walter Wallace-Hodge qui est excellent. Ils ont Moustapha Mohamed également. Ils ont Anas. Et ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence. Mais ils doivent faire très attention à cette équipe des FAP-là. Et pour moi, leurs 3 victoires, peut-être c'est juste une statistique, mais au vu de ce que les deux équipes ont montré, l'écart est moins conséquent que ce qu'on que ce que peuvent laisser les statistiques ou bien les trois victoires contre une affichée par les Amalek face au Fas.
Tout à fait, Sedina. En tout cas, ce qui est sûr, ce serait un match très disputé. Si on veut parler maintenant sur le plan technique, selon ce que je vois, quand je vois les Amalek jouer, on se rend compte que le système consiste à faire un écran sur Walter. Walter fait une pénétration. Si les gens ne jouent pas n'arrivent pas à défendre cet écran, Walter va shooter. Où il va pénétrer et il va shooter, où il va directement à l'anneau. S'il y a rotation, il y a un décalage, il sort la balle. Mais tout se joue au niveau de cet écran. Et si cet écran est bien défendu, en fait, pour les FAP, leur but, c'est d'essayer d'orienter Walter à l'opposé de cet écran. Ce serait la meilleure défense. Parce que souvent, on pense qu'on peut jump, hein, on peut sauter l'écran. C'est pas facile de edge, par exemple, pour un grand, même s'il va à l'entraide, parce que il y a beaucoup, je vois les matchs précédents, on a vu les gars qui défendaient sur le big man qui faisait l'écran, restaient trop en arrière, ce qui fait que Walter arrivait à rentrer, et puis il faisait ce qu'il voulait, il pénétrait, le grand qui a fait l'écran pouvait plonger vers le panier, et donc il avait ses options de shoot à l'extérieur, il avait le grand qui allait directement au panier.
Pénétrer, pick and roll.
Voilà, et ça, c'est leur clé, chèque, si les FAP du Cameroun veulent être d'une certaine manière une équipe qui va compétir pendant 4 cartons, il faut qu'ils défendent cet écran, parce que quand on prend de l'eau, après c'est difficile, la concentration manque, et on se met à perdre les matchs.
Ouais, effectivement, et comme tu l'as bien dit, Eugène, et ça c'est le jeu de Amalek, de l'Égypte. Ils sont très bien avec les pick and roll. Comme on a vu, je parlais tout de suite de leur pivot. Les pick and roll, c'est un jeu que les pivots prennent l'avantage beaucoup, parce que quand tu fais l'écran, tu cours vers le cerceau, si ton meneur te trouve en courant, ça va être un point pour toi, ou bien tu vas au lancer franc. Mais on a vu que le meneur là, il prend bien vraiment avantage de ça, il attaque. Surtout quand il fait l'écran, il n'hésite pas à attaquer, parce que c'est comme si ta porte est ouverte. S'il voit la porte ouverte seulement, il n'a pas peur d'attaquer. L'équipe camerounaise aussi, on a vu que ils ont des pivots qui sont vraiment bons avec les deux jump shooting. Ils s'approchent pas à l'air. La plupart de leurs points, ça vient de jump shots et dans les perimeters, round de perimeters et dans les peintes. Et ça va beaucoup les aider, mais si tu rates les shots comme ça dans le match, l'équipe, Zamalek va te faire payer. Et c'est ce qu'on a vu avec beaucoup des équipes. D'ailleurs, l'équipe Zamalek là, c'est pas une équipe qui est vraiment 100% maghreb. Il y a beaucoup de Maghreb dans l'équipe, mais la plupart de leurs meilleurs joueurs, c'est comme...
Il y a deux Américains.
Des Américains, il y a des Africains.
Solo.
Il y a Solo.
Voilà.
Donc, c'est vraiment une mix de talents dans l'équipe. Là, tu peux vraiment pas dire que c'est...
Je crois même que le coach n'est pas...
Le coach, c'est un Espagnol.
Voilà.
Le coach, c'est un Espagnol. J'ai oublié son nom. Mais c'est un Espagnol. Son nom, c'est Al Zamalek. Non, pas Zamalek, Austin Jules. Austin Jules, il était coach, il a été coach en Allemagne plusieurs fois. Et je pense qu'il est
en Allemagne.
En Allemagne, il est coach des, il a coaché beaucoup d'équipes en Espagne aussi. Et c'est lui qui est le coach de Zamalek dans ce tournoi-là. Et avant qu'on rentre dans les stages de ce jeu aussi, je voulais parler aussi des détails de joueurs et puis ce qui se passe. Comme on a vu que Jayco, le star américain qui vient juste de rentrer là, il a fini son 3 matchs de contrat avec l'équipe Patriote. Les gens sont en train de parler de ça. C'était un contrat. Je voulais seulement que tu partages ton avis sur ça, parce que c'est un joueur qui avait 3 matchs de contrat. C'est fini, donc il est rentré. Les gens sont en train de se faire beaucoup d'idées avec ça, parce que c'est une star américaine qui a amené beaucoup d'interactions et puis qui a beaucoup d'attention sur la ligue, là, le basketball.
Ouais, en tout cas, c'est en fait ça. Je pense qu'il a été amené dans le sens pour attirer l'attention du public international sur cette compétition, mais je pense que dans le futur, il peut faire ça sans avoir besoin d'avoir à jouer. Je pense que les Patriots auraient dû prendre un joueur qui est dans la compétition, parce qu'on a pu voir qu'il n'était pas dans le rythme. Bon, il sait jouer au basketball. Il devait surtout faire des pick-up games, et puis il est venu, et puis il a joué. Mais on va pas être négatif, je pense que c'était dans un but commercial, dans un but de marketing.
L'intention.
Qu'il est venu ça. Mais je vais essayer de parler un peu de Sedina, de l'autre côté. Il ne reste plus trop de temps. On va essayer de parler assez rapidement de cette équipe, parce que Cheikh expliquait quelque chose. Les big men de FAP, quand ils sont en attaque, souvent, ils font beaucoup de shoots à mi-distance et même à 3 points. Il y a Ezekiah, je crois, qui tire de façon permanente.
Oui, le numéro 32 là.
C'est un big
même s'il est ouvert d'attaquer, il prend la jump shot.
Il préfère shooter à 3 points.
Yep.
Il y a qu'une Kenney qu'on voit labourer au niveau de l'anneau, prendre la balle et faire des putbacks.
Yep.
Et même lui, des fois, il fait des tirs à mi-distance. Mais contre cette équipe de Zamalek, justement, on a pu voir lors des précédents matchs, c'est une équipe qui joue très regroupée au niveau de la défense de leur zone. Donc, Sedina, ne pense pas que ça va être... il faudrait qu'ils tiennent compte de ça et qu'ils appliquent une autre tactique, justement, pour pouvoir être efficace, pour que les FAP soient efficaces sur le plan offensif.
Oui, je pense que vouloir éviter l'affrontement dans la raquette serait une tactique perdante pour cette équipe du FAP. Bien que le secteur intérieur du Zamalek est assez fourni, assez efficace, je pense que des fois, pour battre un favori, il faut essayer de le trouver sur le terrain où il est plus fort et de le perturber. Parce que si on met en place des tactiques juste pour... éviter peut-être certains points forts de l'adversaire, on se crée des problèmes à soi-même. Pour répondre à ta question, moi, je suis pour une tactique qui permette de déstabiliser un peu les certitudes de cette équipe du Zamalek, parce que je pense que ce sera l'une des clés du match. Ne pas les laisser dans leur zone de confort, essayer de les perturber au maximum. Surtout, on n'en parle pas assez, mais il y a un facteur X dans l'aide au-delà du secteur intérieur, au-delà de la mise en place tactique, et on l'a vu lors du précédent match. C'est Souleymane Diabaté, qui est un joueur très expérimenté, international ivoirien, et qui apporte beaucoup à cette équipe en sortie de banc souvent. Et moi, je pense que c'est l'un des joueurs qu'il faudra bien surveiller, parce que au-delà des passes décisives et des points qu'il apporte, il apporte surtout de la fluidité dans le jeu en attaque. Et pour moi, ça, c'est très important. Et en général, comme c'est un joueur issu du banc, on ne lui prête pas trop d'attention, alors que sur les derniers matchs, on voit qu'il a un apport assez décisif à chaque fois qu'il entre. Et il permet aussi une mise en place tactique des attaques très jouées du côté du Zamalek.
Tout à fait. En tout cas, c'est très simple.
Yeah, moi, je voulais ajouter aussi quelque chose en le basket. Eugène, comme tu le sais bien, tous les matchs, toutes les équipes que tu vas jouer, c'est différent. You know, comme on a si bien vu avec beaucoup des équipes, quand tu joues contre une équipe qui shoot beaucoup de 3 points, il faut changer ton jeu, comment tu joues en défense ou bien en attaque. Et donc, ça va être vraiment quelque chose. On a parlé beaucoup des atouts de l'équipe Zamalek de l'Égypte. On a parlé beaucoup des atouts de l'équipe camerounaise aussi. Mais on peut se dire que ça peut aussi changer vu la modalité des deux équipes, comment elles sont, et leurs points forts, leurs points faibles. Donc, c'est ce qu'on va vraiment voir si une équipe peut prendre l'avantage de la faiblesse de l'autre pour entamer ce match d'ailleurs qui va commencer dans 2 minutes.
C'est vrai, et de toute façon c'est simple, si les FAP veulent gagner ce match, ils doivent pouvoir contrôler les arrières de Zamalek. Donc avec Marcus, Aruna et les autres arrières, ils doivent s'occuper de Walter et de Solo, et dans le jeu intérieur il va falloir que justement il fasse un jeu intérieur pour pousser Anas à faire des fautes. Comme ça, il ne va pas être un protecteur de l'anneau. Il sera obligé de faire très attention et ça va leur faciliter la tâche. Donc, c'est un match qui va, comme je l'ai dit depuis le début de cette compétition, qui va durer 4 cartons. Le match n'est pas joué avant ça. Le 3e carton va nous donner la direction dans laquelle le match est en train d'aller. Mais tout peut se passer. Comment le 3e carton se termine, comment le 4e carton se termine, comment chaque équipe vont utiliser leurs joueurs Sedina très rapidement. Je te laisse la parole 30 secondes, puis on va passer pour le générique de cette compétition, de ce match qui va commencer aujourd'hui.
Oui, Eugène, comme Cheikh l'a dit et comme toi tu l'as dit, le basket, c'est 4 cartons, mais c'est aussi des spécificités qui changent à chaque match, des adversaires auxquels il faut s'adapter. C'est d'ailleurs pourquoi tout à l'heure je disais que pour réussir vraiment ce quart de finale-là et avoir calmement défendre calmement ses chances, les FAP devraient au maximum perturber le jeu et les certitudes de cette équipe du Zamalek pour pouvoir profiter des failles qu'ils vont créer.
Tout à fait, mais j'invite maintenant tous nos auditeurs à suivre ce match entre le Zamalek et les FAP sur à Bangui sur la bande 101.7, Brazzaville 104.3, Matadi 93.5, Pointe-Noire 98.3, N'Djamena 93.1, Dakar 102, Lubumbashi 102.8, Bukavu 87.4, Goma 96.2, Kisangani 97.7, Abidjan 99, Ouaga 102.4, Niamey 102.5 et Lomé 102.3, Jeanne Péwa depuis le studio. Nous allons revenir au match et nous, Sedina à Dakar et Jeanne Péwa depuis la Voix de l'Amérique ici à Washington. Le match va commencer dans quelques minutes.